sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La séance est ouverte. Monsieur l'ambassadeur, Madame le maire, Madame, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de Thierry Esquèche, élu le 6 mars 2013, membre de la section de composition musicale de notre Académie, au fauteuil précédemment occupé par Jacques Tadéhi. La parole est à Monsieur Laurent Petit-Girard.
Monsieur l'ambassadeur, Madame le maire, Madame, chers confrères, chers amis, cher Thierry Esquèche, lorsqu'un académicien accepte la lourde tâche de recevoir sous la coupole de l'Institut un nouveau confrère, c'est avant tout parce qu'il en admire l'œuvre et la personnalité. Mais si ce nouvel immortel est en plus un ami, la préparation du discours va permettre à celui qui en a la charge de découvrir des facettes qu'il ignorait de la personnalité de celui qu'il était persuadé de bien connaître. Dans votre cas, cher Thierry Esquèche, les découvertes sont savoureuses. D'où vient qu'un homme aussi discret écrive une musique à ce point flamboyante? Peut-être parce que la musique a toujours été partie intégrante de votre vie, qu'elle est devenue un acte simple et lumineux du quotidien, ne laissant place à aucune vanité. Vous l'avez abordée avec l'humilité d'un artisan, dans une remise en question permanente de votre création, ce que vous avez décrit en une formule toute simple, je vous cite, « composée, s'est enfoncé le même clou toute sa vie ». Mais en même temps, l'importance que vous accordez dans votre vie à l'improvisation, que vous qualifiez d'énergie primaire et dont la spontanéité vous est essentielle, nous rappelle que vous êtes avant tout un créateur ouvert et curieux de tout ce qui peut enrichir son esprit. Vous êtes né en 1965, ce qui fait de vous un tout jeune académicien. Vos parents, qui travaillent dans la fonction publique, vont toujours, après avoir très tôt détecté l'évidence de vos dons, respecter votre appétit de musique. Votre premier instrument sera l'accordéon, dans un répertoire musette, qui vous amènera très jeune à participer à des bals populaires. Là se trouve probablement l'origine de votre grande tolérance et de l'insatiable curiosité à l'égard de tous les styles musicaux. Votre mère vous emmène très régulièrement à la messe, où vous allez encore très jeune, à 7 ans, vous exercez en autodidacte à la fin des offices, d'abord sur l'harmonium, puis sur l'orgue. Vous êtes aujourd'hui co-titulaire avec Vincent Varnier des orgues de la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, succédant ainsi à Maurice Duruflet. Vous avez été nommé en 1996 à cette fonction par le père Lerat, curé de Saint-Étienne-du-Mont, qui vous avait baptisé une trentaine d'années plus tôt. Un office est une sorte d'opéra dominical dont l'organiste est le lien. Ainsi décrivez-vous cette passionnante activité qui, à l'évidence, vous enrichit et dans laquelle vous élaborez le terreau qui alimente toute une partie de votre œuvre. Heureux sont les paroissiens de Saint-Étienne-du-Mont qui échappent ainsi depuis des années, grâce à vous, aux tristes musiquettes dont sont envahis tant d'offices religieux, alors que la passion du Christ a suscité de si nombreux chefs-d'œuvre. Mais retrouvons ce jeune garçon, âgé désormais de 9 ans, qui va intégrer en classe de piano le conservatoire de Rosny-sous-Bois et bénéficier pendant plusieurs années de l'enseignement de Monique Cohen, grande pédagogue, dont vous parlez avec beaucoup de tendresse et de reconnaissance, et que j'imagine très fière et très heureuse aujourd'hui. À 10 ans, vous rencontrez Olivier Messiaen, qui vous incite à préparer la classe d'orgue. Vous êtes aujourd'hui reçu dans une compagnie qui est fière de l'avoir compté parmi ses membres. Vous suivrez plus tard son conseil et vous obtiendrez un premier prix d'orgue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, non sans avoir au passage raflé ceux d'harmonie, de fugue, de contrepoint, d'orchestration, de composition, d'analyse et d'improvisation. Lorsque l'on vous regarde jouer de l'orgue, on est frappé de voir votre communion physique avec cet instrument. Cela tient tout autant de l'échange que de la domination, de l'ivresse contrôlée que du plaisir absolu. Il est vrai que cet instrument est fascinant, presque inaccessible à traiter pour les compositeurs qui ne le maîtrisent pas. Pour les non-initiés, l'orgue, surplombé par de majestueux tuyaux, avec ses nombreux claviers, son pédalier et la multitude de ses jeux, est très intriguant. J'ai su qu'à la fin de l'année dernière, vous avez eu la surprise, alors que vous étiez en train de travailler à Saint-Étienne-du-Mont, de recevoir la visite de l'un de vos amis, accompagné du premier personnage de l'État, que vous avez pu initier aux multiples facettes et possibilités de l'orgue. Permettez-moi de vous féliciter, car faire monter un homme politique à la tribune sans qu'il ne fasse un discours, voilà sans conteste une réelle performance. Dès l'âge de 6 ans, vous avez commencé à composer et l'orgue s'est naturellement retrouvé au centre des deux grands piliers de votre activité créatrice, l'improvisation et la composition. Le fait de commencer si jeune a couché sur le papier une pensée musicale, même si elle était dans un premier temps très simple, a contribué à rendre évident et naturel pour vous le fait de composer. Vous avez très vite supprimé la distance qu'il peut y avoir entre l'écrit et l'entendu. Sachant que vous succédez à notre regretté confrère et ami Jacques Tadéhi, disparu prématurément, je sais que vous allez inévitablement évoquer l'improvisation et que vous en parlerez beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Je dirais simplement que composition et improvisation sont pour vous étroitement liés. Improviser, c'est composer en temps réel, m'avez-vous dit récemment. Il semble évident que se cumule dans votre vie de musicien le désir constant de la spontanéité, l'impérieuse nécessité de tracer un sillon et le besoin de communiquer, d'échanger avec vos contemporains. Lorsque j'ai demandé à votre épouse Valérie comment était la vie au quotidien avec Thierry Esquèche, elle m'a répondu « C'est très simple, il compose tout le temps, même lorsque vous pensez qu'il écoute votre conversation. » C'est la raison pour laquelle un huissier va vous apporter un peu de papier à musique et un crayon. Dans l'hypothèse où ce discours vous inspirerait un prélude pour une coupole, si vous utilisez mes paroles, on pourrait même le déposer à la SACEM, j'y ai quelques connexions. Vous n'avez pas véritablement besoin d'isolement. Votre épouse Valérie et vos deux filles Amélie et Gabrielle ont l'habitude de vous voir composer sur la table de la salle à manger, votre endroit favori, ce qui doit susciter d'intéressantes négociations au moment des repas. Vous rappelez en cela l'un de nos illustres prédécesseurs, Charles Gounod, composant une scène de Faust au milieu du tintamarre d'une soirée entre amis. Lorsqu'on lui demanda comment il faisait pour travailler au milieu d'un tel vacarme, il se cogna le front et répondit « Il y a tellement plus de bruit là-dedans ». Une seule ombre cependant à ce sympathique tableau familial. Après 23 ans de mariage avec un compositeur de musique, Valérie Esquèche, déjà titulaire d'un master en histoire du droit, vient d'obtenir récemment un certificat en criminologie. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en conclure. Mais si l'étape suivante devait la faire s'intéresser à la toxicologie, l'écriture rapide d'un requiem s'imposerait peut-être. Si le compositeur, l'improvisateur et l'organiste constituent les différents aspects de votre activité de musicien, tous trois sont transcendés par une vie spirituelle intense, dont on trouve la trace dans la majorité de vos œuvres. Dès que l'on évoque la spiritualité dans la musique et que l'on s'adresse à un organiste, l'œuvre de Jean-Sébastien Bach vient à l'esprit comme une évidence. Rien d'étonnant donc à ce que la première œuvre symphonique éditée de votre catalogue soit un choral varié en hommage à Jean-Sébastien Bach, écrit en 1984. Il faut d'ailleurs saluer le fait que dès cette date, alors que vous n'aviez que 19 ans, les éditions Gérard Billaudot, dirigées alors par François Dervaux, vous ont fait confiance en détectant très tôt votre talent et les promesses ô combien tenues qu'il recelait. Cette collaboration sans faille, qui dure depuis plus de 30 ans, est exemplaire. Elle présente en plus un énorme avantage pour les interprètes qui souhaitent vous programmer, celle de tout trouver au même endroit. Votre première symphonie, écrite en 1992, a comme sous-titre « Kyrie d'une messe imaginaire ». Et 12 années plus tard sera créée par l'Orchestre national de Lille une œuvre à la mystique poétique, « Vertige de la croix ». Vous avez souvent interprété la musique du cantor de Leipzig, mais vous êtes allé beaucoup plus loin en lui empruntant des thèmes que vous ferez évoluer à loisir. Déformer une citation, c'est faire fructifier son héritage, expliquez-vous, pour éclairer cette envie d'incorporer un thème du maître dans certaines œuvres. C'est ce que vous avez fait dans l'une de vos pièces les plus saisissantes, Exultet, pour 12 voix, orgue, piano et percussion, écrite et créée en 2005 à la Basilique royale de Saint-Denis. Vous avez voulu écrire une œuvre qui aille vers la lumière, par le biais de l'énergie plutôt que par celui de la béatitude, tout en évitant le choix de textes trop sombres. Les auditeurs gardent le souvenir d'un incroyable ostinato qui entraînait cette œuvre dans un véritable tourbillon avec une utilisation rythmique particulièrement réussie des parties vocales interprétées par l'excellent ensemble Sequenza 9-3. On y perçoit comme une danse, qui fait que même dans un mouvement lent, vous maintenez une pulsion interne, l'obsession rythmique ne vous quittant jamais. Vous avez une conception instrumentale de la voix, que vous avez probablement hérité de votre proximité avec Jean-Sébastien Bach. Vous créez un rythme de diction, un concept différent de prosodie, de la langue, en re-rythmant le texte. Il est intéressant de constater que la sensation de puissance tranquille qui découle de nombreuses œuvres de votre répertoire repose souvent sur une formidable virtuosité instrumentale. Ceci vient probablement du très haut niveau de technicité dont vous faites preuve en tant qu'interprète et improvisateur. Nous garderons toujours tous les deux en mémoire la panique qui nous avait envahis en octobre 1995 lorsque, 10 jours avant la création mondiale salle Pleyel de votre fantaisie concertante pour piano et orchestre, dont la partie soliste est particulièrement virtuose, le pianiste programmé s'est désisté sous de fumeux prétextes. Le concert a été sauvé grâce à Émile Naoumoff, compositeur et pianiste virtuose, dont l'étonnante capacité d'assimilation en quelques jours d'une partition aussi complexe nous a impressionnés. Vous n'aviez à cette époque jamais envisagé de jouer vous-même cette fantaisie, car vous estimiez trop importante la différence entre les techniques spécifiques de l'organiste et du pianiste. Vous avoir entendu dire de votre propre musique « c'est trop dur pour moi » reste assez difficile à croire. Votre maîtrise instrumentale, qui vous amène à concevoir une virtuosité intégrée à une grande musicalité, fait que la forme concertante vous séduit depuis toujours. On pense évidemment à vos 2 concertos pour orgue. Vous avez écrit le second en 2006 avec l'Orchestre de Bretagne, Henri-Franck Beauperrin ayant créé le premier en 1995 avec l'Ensemble Orchestral de Paris. Mais il faudrait également citer vos concertos pour clarinette, pour trompette, pour piano, pour 2 pianos, pour saxophone, pour violon et hautbois, pour violoncelle et miroir d'ombre, superbe concerto pour violon, violoncelle et orchestre. Il est programmé chez Colonne bientôt. Il n'est pas surprenant que vous ayez une affection toute particulière pour la musique de Félix Mendelssohn, tant la fluidité de son discours peut donner l'impression d'une improvisation alors que la forme reste parfaitement équilibrée. Ce processus créatif dans lequel l'improvisation peut servir de déclencheur à la composition vous a amené parfois à introduire l'orgue dans des œuvres symphoniques. L'une de vos réalisations les plus attachantes, la Barque solaire, créée en 2008 au Concerthaus de Berlin, est conçue comme une pièce d'orchestre avec orgue principal, votre instrument fétiche se retrouvant à nouveau en 2014 dans la suite symphonique extraite de l'opéra Claude. Les plus grands interprètes se sont mis au service de votre musique. David Grimal, François Leleu, Lisa Batiashvili, Emmanuel Bertrand, Paul Meyer, Renaud et Gauthier Capuçon, Éric Aubier, Franck Bralet, Éric Lesave, Xavier et Jean-Marc Philips, le trio Vandererre, Valérie Gergiev, Christophe Eschenbach, Paavo Järvi, Dennis Russels-Devils, Jérémy Rohrer, Jean-Claude Casatzu et tant d'autres qui me pardonneront de ne pas les avoir cités. Vous êtes l'un des compositeurs contemporains les plus joués dans le monde, alors que, vous l'avouez sans peine, vous êtes incapable de gérer votre carrière, préférant vous laisser couler dans les projets que l'on vous propose. Ce ne sont pas forcément les concerts prestigieux qui vous impressionnent le plus. Lorsque l'on vous pose la question du souvenir le plus marquant, vous citez un concert-spectacle avec deux mimes et deux danseurs autour de transcriptions de Stravinsky. Dans les années 2000, vous avez créé avec vos amis Jean-François Zigel, Guillaume Connaisson et Pascal Zavaro le groupe Phoenix, qui a présenté pendant plusieurs années un autre aspect de la musique contemporaine française. Le duo piano-orgue que vous avez constitué avec Jean-François Zigel, grand défenseur de l'improvisation, vous a amené à illustrer sous forme de ciné-concert de nombreux films muets, tels Le Fantôme de l'Opéra ou Métropolis. J'ai eu trois fois l'occasion de collaborer avec ce duo, que je qualifierais volontiers d'infernal, lors de la projection des 5h30 du Napoléon d'Abel Gance à Monte-Carlo, à l'Opéra de Paris et à la Cité de la Musique. J'ai pu constater avec amusement comment le concept original, qui était de transcrire pour vos deux instruments des mouvements de symphonie de Neger, histoire de reposer un peu l'orchestre, s'était progressivement transformé en variation sur un thème de Neger, pour finir en délire total, n'ayant strictement plus rien à voir avec la partition que j'avais sous les yeux. Vous avez également écrit une partition complète pour le film muet « L'heure suprême » de Franck Borzave. Parallèlement à votre activité de compositeur et d'interprète, vous avez été nommé à 27 ans professeur d'écriture et d'improvisation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. C'est peu dire que vous êtes apprécié de vos élèves qui parlent tous de vous avec une grande admiration. Transmettre vous est aussi naturel que de jouer ou de composer. 2013 aura marqué une étape importante dans votre vie de musicien, celle de la création à l'Opéra de Lyon de votre premier opéra, Claude, sur un livret de Robert Badinter, d'après Claude Gueux de Victor Hugo, et dans une mise en scène d'Olivier Py. Le livret traite de l'univers carcéral et de la peine de mort, sujet douloureux et violent qui correspond au combat d'une partie de la vie du plus emblématique garde des Sceaux de la Ve République. On est d'abord frappé en regardant dans votre catalogue votre production 2011 et 2012, années censées être totalement absorbées par l'écriture de votre opéra. On voit apparaître un scherzo fantasque pour deux pianos et orchestres, un concerto pour clarinette et orchestre et de nombreuses œuvres de musique de chambre. Si l'on ajoute à cela les très nombreux concerts que vous avez donnés dans la même période et l'enseignement au conservatoire, chacun comprendra que vous êtes doté d'une puissance de travail tout à fait exceptionnelle. C'est Serge Dorny, directeur de l'Opéra de Lyon, qui a eu la judicieuse idée de vous proposer d'écrire cet opéra. Perspective qui vous inquiétait, j'étais plutôt frileux, avez-vous confié. Vous avez néanmoins abordé ce genre nouveau pour vous avec la spontanéité qui caractérise votre personnalité. Là où certains compositeurs discutent, voire négocient pied à pied avec leur librettiste, définissent en amont la structure générale de l'œuvre, son squelette en quelque sorte, vous avez attendu de recevoir un livret quasiment achevé pour entamer la partition que vous avez conçue comme un grand poème symphonique, tout en poursuivant pendant plusieurs mois des échanges passionnants avec Robert Badinter sous forme d'aller-retour des différentes scènes de l'opéra. Cela se comprend, car vous n'étiez en fait pas simplement devant un librettiste, mais devant un homme qui donnait une dimension poétique à une cause qu'il a incarnée, tout en respectant scrupuleusement la pensée et les mots mêmes de Victor Hugo. La puissance du texte, avec cette magnifique phrase sur la tête de l'homme du peuple, présente à la fin du texte de Victor Hugo. Cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper. Cette phrase vous a inspiré une musique d'une grande puissance et d'un lyrisme intense. Cet opéra, dans l'orchestration duquel vous avez inclus l'accordéon de votre enfance, a été également l'occasion d'un très joli passage de témoin avec Jérémy Rohrer, jeune chef d'orchestre particulièrement doué qui le dirigeait. Il a été votre élève au conservatoire et était donc particulièrement bien placé pour comprendre et habiter votre musique. Il est clair que vous avez attrapé le virus et qu'un second opéra va enrichir votre production dans les années à venir. En attendant le choix d'un nouveau livret, vous composez actuellement une œuvre symphonique pour l'orchestre de Cincinnati. Vous avez su, durant toutes ces années, vous tenir à l'écart des polémiques ou des batailles de clochers, pour ne pas dire de chapelles. Vous vous êtes toujours comporté en compositeur indépendant, traçant une trajectoire originale et intègre. Après des années où vous exprimiez dans votre musique un lyrisme hyper tendu, vous recherchez désormais, je vous cite, « des formes en osmose avec le cosmos, monde sonore superposé qui se mélange, mais avec un certain recul, moins évolutive, comme le début d'une méditation. » Composer, c'est transformer. Cette définition éclaire très bien votre œuvre. Elle démontre cette idée essentielle que vous développez, le sentiment de ne jamais arrêter, de créer en fait une œuvre en continu, dont l'éclairage peut changer, mais dont la matière sans cesse remodelée reste la même. Et en parallèle, l'homme que vous êtes reste à l'écoute de la vie, de ses contemporains, d'un simple bruit, telle cette ambiance de métro à la porte de Pantin, qui vous donnera la matière du début de votre concerto pour trompette et orchestre. Vous admettez, en tant qu'improvisateur, un besoin viscéral du public dont l'écoute et l'énergie vous font aller vers d'autres horizons. Aujourd'hui, à tout juste 50 ans, vous avez déjà constitué une œuvre impressionnante, en parfaite accointance avec votre personnalité à la fois chaleureuse et pudique. Notre compagnie est non seulement fière de vous compter désormais parmi ses membres, elle est heureuse de voir arriver un humaniste, un artiste aux nombreuses facettes, ouvert aux autres, qui saura enrichir nos travaux et nous aider dans notre mission de défense de l'art dans toutes ses composantes. Bienvenue, cher Thierry Esquèche.
Chers confrères, la parole est maintenant à Thierry Esquèche.
Le 5 juin 2002, Lorsque Jacques Taddeï se présenta devant vous, à la place d'où je vous parle aujourd'hui, il remercia Jean-Louis Florenz, qui l'accueillait sous la coupole, d'avoir tenté de redonner unité et cohérence à une vie sillonnée d'apparentes contradictions. Et l'on sentait pointer tout au long de son allocution à la fois sa très grande fierté d'être reçu parmi vous, mais aussi une part plus sombre, plus nostalgique à l'évocation, par exemple, des rêves auxquels il lui semblait avoir fallu renoncer l'âge venu. Il est vrai qu'il y avait chez lui un versant prométhéen, nuancé par un versant orphéen, pourrait-on dire, un tempérament de bâtisseur inépuisable, sans cesse en mouvement, en même temps qu'un poète du son sensible et fragile, un homme dont la volonté de parvenir à ses buts emportait tout sur son passage, tout autant qu'un homme en proie au doute de lui-même. Son enfance niçoise laissait déjà pressentir cette dualité, et il n'est pas anodin de le voir ce tout jeune enfant, choyé par une mère attentive et aimante, s'atteler avec constance et ardeur à la construction d'un théâtre de marionnettes, qui occupait les moments qu'il ne passait pas au piano, instrument qu'il avait commencé dès l'âge de 3 ans. Si l'on ajoute à cela sa passion, dès son plus jeune âge, pour Versailles, ses ors, son architecture, sa vie de cour, on comprend mieux certains aspects de sa vie future, aussi bien professionnelle qu'affective d'ailleurs. Ses proches se souviennent de lui en effet comme d'un véritable esthète qui aimait s'entourer d'œuvres d'art. Il pouvait aussi bien disserter sur l'argenterie du XVIIIe siècle que des différentes étapes de la construction du château de Versailles, de tel ou tel autre monument, ce qui n'est guère étonnant pour un musicien, tant l'architecture est intimement liée à la création musicale. Le geste formel qui conduit à l'élaboration d'une fresque sonore n'est-il pas un des plus étroitement liés à celui qui guide le crayon de l'architecte lorsqu'il esquisse la forme de l'édifice qu'il projette de construire? Quand une œuvre ou même une improvisation se termine, n'est-ce pas du parcours formel dont on se souvient avant tout, avec ses grandes progressions, ses crêtes, ses ruptures, bref, toute son architecture sonore qui tente à traduire dans la durée cet équilibre de masse, volume et ligne qui se dessine originellement dans l'espace? Ce tempérament de bâtisseur, déjà bien ancré dès ses jeunes années, c'est par le piano que Jacques Taddeï commence donc la pratique musicale, d'abord au Conservatoire de Nice, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Lucette Descaves, à l'issue de quoi il obtiendra un premier prix de piano. A noter qu'il fera aussi, parallèlement, comme c'était souvent le cas à l'époque, des études de philosophie, un peu poussées par ses parents, qui avaient peut-être peur dans son avenir, qui pourtant laissait présager déjà un bel avenir. Dès ce jeune âge, on voit sa passion pour... je l'ai dit, ces châteaux et tout ça, mais d'un autre côté, très rapidement, le piano va prendre le dessus et ça le conduira jusqu'au concours international Marguerite Long, qu'il obtiendra en 1973 à l'âge de 27 ans. Et ce concours aurait pu laisser présager une carrière de soliste international, sautant d'une salle de concert à une autre, d'un concerto à un autre, doigtant ses nouveaux traits dans les aéroports. Mais c'était sans compter sur les rencontres humaines et musicales qui furent toujours déterminantes dans sa construction personnelle. S'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait sans doute sa rencontre avec Pierre Cochereau, à la tête du Conservatoire de Nice depuis 1961. C'est ce dernier qui le dirigea vers l'orgue, mais aussi le monde de l'improvisation et celui de la création. Il lui fit par exemple rencontrer des personnalités aussi diverses que Tony Aubin, qui à cette époque-là enseignait la composition au Conservatoire de Paris, ou Henri Dutilleux, qui à cette époque-là, lui, enseignait à l'Académie de Nice la composition aussi. Dès lors, ces deux-là ne se quitteront plus. Et ce sont les conseils prodigués par celui qu'il considérait un peu comme son père adoptif qui le conduiront à l'obtention du premier Grand Prix d'improvisation à l'Orgue de Chartres en septembre 1980. Le jury était d'ailleurs présidé cette année-là par l'organiste de Notre-Dame. Peut-être le fait d'être dans le sillage d'une personnalité comme Pierre Cochereau explique-t-il le peu d'engouement de Jacques Taddeï pour l'écrit. L'organiste de Notre-Dame ne laissa lui-même que peu de compositions à proprement parler, ces dernières, malgré leur fort belle facture, ne témoignant d'ailleurs pas de la liberté de ton qui irradiait ses improvisations. Pourtant, rien de très nouveau dans la grammaire d'un Cochereau. Une assise résolument romantique, d'une part, avec un chromatisme tout droit venu de son prédécesseur Louis Vierne. Une imprégnation d'une modalité teintée de millisme grégorien si sensible chez un Maurice Duruflé, son collègue. Et bien sûr, une manière orchestrale de registrer et même jouer son instrument, issu directement des grandes pages d'un Dukas ou d'un Ravel. Donc, un art de synthèse, en premier lieu, auquel s'ajoutent des gestes d'improvisation particulièrement marquants, un véritable sens des proportions, mais aussi de la dramaturgie, avec un emportement et une fougue poussés jusqu'à l'excès sans lesquels ne pourrait naître cette fameuse légende de l'improvisateur démiurge arc-bouté sur ses innombrables claviers et enseveli sous la rutilance sonore de ses tuyaux chauffés à blanc. Voilà pour le côté romantique de l'affaire. Alors, passer à l'écrit signifie pour certains figer ce jaillissement inextinguible. Et puis, il y a ce retour sur soi, cette écoute intérieure nécessaire à toute composition qui peut pousser à préférer cet art de l'instant, cette fuite en avant et ce besoin irrépressible d'avoir prise sur son auditoire. Voilà sans doute une des raisons de ce peu de place qu'occupa la création sous la forme écrite, en tout cas, chez Pierre Cochereau. Mais sa façon de dire la musique reste encore bien emblématique, y compris pour les jeunes générations, de cet art bien français qui est l'improvisation, que le monde nous envie et que Jacques Tadei, par ses grandes tournées à l'étranger, dont Jacques Tadei a été l'ambassadeur. À l'instar de son maître, il fallait une grande tribune parisienne à Jacques Tadei. Ce fut celle de Sainte-Clotilde, à laquelle il fut nommé en 1987, succédant ainsi à la très grande figure de l'orgue français que fut Jean Langlais. Depuis ce concert de Marcel Dupré à Notre-Dame de Nice, qui avait été un des déclencheurs de sa fascination pour l'orgue, disait-il, alors qu'il avait à peine 10 ans. On connaissait la prédilection de Jacques Tadei pour l'orgue symphonique, cet instrument dont l'étagement des jeux, dans un souci de complémentarité et d'unification des différents timbres, était censé symboliser la rondeur et la profondeur des grands orchestres wagnériens. Ce cavaillé-école, donc, de Sainte-Clotilde, lui était particulièrement destiné. Et jusqu'au matin même de son décès, il y assura l'office du dimanche, théâtre de ses improvisations. Savoir qu'avant lui, un César Franck et un Charles Tourumire avaient donné vie à cette tribune était une grande fierté pour lui. Succédant à César Franck, il lui semblait poursuivre la voie de ce compositeur qui, par sa fluidité harmonique au chromatisme si particulier, son expression souvent fiévreuse et nostalgique, mais dans une ossature formelle rigoureuse, avait ouvert la voie à tout un pan de la musique française du XXe siècle. Succédant à Charles Tournemire, il semblait capter l'héritage de celui qui paraissait libérer le langage d'une certaine métrique, ouvrait le champ des couleurs harmoniques dans une direction qui conduirait bientôt aux couleurs modales d'un Messiaen, et même à toute une génération de compositeurs qui ont exploré le son en lui-même. Écoutons donc quelques bribes d'une improvisation faite par Jacques Tadei en 1995. C'est une symphonie en hommage à Pierre Cochereau, et pour cette symphonie, il reçut le Grand Prix du disque. C'est le premier mouvement que nous allons écouter, un extrait. Fort de sa double formation d'organiste et de pianiste, il aurait pu se contenter de se produire dans des récitals où il ferait se succéder la sonate en si mineur de Lis, par exemple, et le célèbre Ad Nos, son alter ego organistique. Il le fit souvent, et certes avec brio. Mais cela n'aurait pas suffi à combler son tempérament de bâtisseur que j'ai évoqué précédemment. 1972, rencontre avec Jacques Baumel, député et ministre avec lequel il décide de créer le conservatoire de Rueil-Malmaison. Il en devient directeur, il n'a alors que 26 ans. À partir de cette date, débute une réelle implication dans la vie culturelle du pays, mais aussi un intérêt grandissant pour la transmission. Cette implication passait par un engagement politique et il restera pendant deux mandats maire adjoint à la culture de cette ville, inaugurant au fil des ans de nouveaux locaux pour le Conservatoire national de région, une école des beaux-arts, une médiathèque et pas moins de 5 centres culturels. La seconde étape de cette action pour la formation des jeunes musiciens, ce sera sa nomination à la tête du Conservatoire national de région de Paris en étant 1987. Là encore, il partait d'une structure embryonnaire, éclatée dans la capitale, qu'il va par une réelle force de conviction et sans faiblir devant les batailles à mener face aux acteurs de la vie publique, réussir à unifier et donner corps. Il l'implanta rue de Madrid, à la place du Conservatoire national supérieur de musique qui, lui, commençait son aventure à la Villette. Et une des actions importantes qu'il y mènera, s'il n'y en avait qu'une à retenir, fut sans doute son attachement à insérer les jeunes musiciens dans la vie professionnelle, dans la pratique musicale de haut niveau. Avec la présence de l'ensemble orchestral de Paris, devenu plus tard l'Orchestre de Chambre de Paris, au sein même de son établissement, il plaçait son conservatoire au centre de la vie musicale parisienne. Avec sa collaboration avec l'Orchestre de Paris, qui accueillait pour certains concerts les étudiants du CNR, qui partageaient le pupitre avec de très grands musiciens, les meilleurs clarinettistes, violoncellistes, il leur permettait de se nourrir en direct de l'expérience de leurs aînés et d'être dirigés par les grandes figures de la direction d'orchestre. Je me souviens qu'à cette époque où j'étais encore élève au Conservatoire de Paris, certains de mes condisciples regardaient même avec une pointe de jalousie ce conservatoire, faire venir à lui de très grands noms de la musique. Il est vrai que Jacques Tadélie a toujours su s'entourer d'authentiques musiciens au sommet de leur carrière. Ainsi, après Rueil-Malmaison, où il avait fait venir une personnalité comme Marie-Claire Alain, après Paris, où il avait ouvert une classe de composition et d'esthétique pour son ami Jacques Charpentier, par exemple, on le voit à Nice, durant l'Académie d'été, s'entourer de fidèles comme Bruno Rigouteau, Jacques Rouvier, Olivier Gardon, qui préside désormais aux destinées de cette Académie, mais encore Brigitte Engerer, fidèle parmi les fidèles qu'il connut à la classe du lycée de Descaves alors qu'il n'avait que 12 ans et qui le suivra jusqu'à la veille de son décès, Patrice Fontanarosa, Bernard de Crépy, qui enseignait l'écriture dans cette Académie, ou encore Henri Desmarquettes, mais là je pourrais en citer aussi énormément. Là encore, il s'investit jusqu'au bout dans cette Académie, dont il fut nommé président dès 1992, succédant à Alain Marion, et à laquelle il a redonné souffle, ainsi qu'au Festival du Cloître de Simiez qui l'accompagne. Elle lui permettait aussi de se ressourcer chaque année dans sa ville natale, et je crois savoir que la ville de Nice inaugurera bientôt un jardin, jardin espagnol, jouxtant ce monastère de Simiez, jardin qui portera le nom de Jacques Tadélie en mémoire de son engagement pour le rayonnement de la culture de la ville. Action pédagogique reconnue, donc, mais aussi action en faveur de la diffusion de la musique. Le Festival d'art sacré de la ville de Paris, présidé par Madame Bernadette Chirac, et qu'il dirigea de 1993 à 2004, lui donna l'occasion de faire une programmation très diverse, allant de la musique baroque à la musique d'aujourd'hui, et d'inviter les plus grandes formations françaises ou étrangères. Mais là encore, son principal objectif sera d'ouvrir ses concerts au public le plus large possible et pratiquer pour cela une politique de concert, par exemple à 10 euros. Ses proches se souviennent encore de l'avoir vu fébrilement attendre à la porte de certains concerts la venue du public, d'un public jeune. À une époque où le renouvellement du public est devenu un enjeu crucial, vital pour la musique classique, on ne pourra guère le lui reprocher. Permettez-moi d'évoquer un souvenir que je regarde avec beaucoup d'affection maintenant. C'est cette époque où date notre première collaboration avec Jacques Tadei. C'était un concert dans l'église Saint-Eustache. Ce concert abritait la création de mon premier concerto pour orgue et orchestre, dont vous parliez tout à l'heure, Laurent, qui avait été une commande du Festival d'Art Sacré de Musique Nouvelle en Liberté, une association qui a toujours eu pour but de mêler justement ces œuvres d'aujourd'hui à celles du passé, de toucher en cela le plus large possible, le public le plus large possible. Mais nous étions malheureusement en décembre 1995, quelques jours seulement après l'annonce par Alain Juppé de son plan de réforme des régimes spéciaux de retraite. Dans l'état où se trouvait la capitale, on eut bien du mal à voir les musiciens, alors encore plus le public, et même la radio qui, prise de court, avait à peine pu placer ses micros, ce qui fait qu'on entendait lors de la retransmission guère plus que la partie orchestrale, ce qui n'est pas de la meilleure efficacité pour un concerto, vous me l'avouerez. Bref, ce fut un désastre. Mais tout le monde s'en remit, mon concerto aussi, et les autres collaborations que nous eûmes furent bien plus fructueuses. Parallèlement à ce très beau festival, naquit le concours international d'orgue de la ville de Paris, que Jacques Tadei conduisit jusqu'en 2008, et dont l'un des principaux attraits était de mettre en valeur le riche patrimoine des orgues parisiens de tous les styles et de toutes époques. Un élève japonais, un étudiant américain, anglais, venait dans la capitale, venait le matin travailler sur l'orgue de Saint-Louis-en-Lille, baroque, allait travailler l'après-midi à Saint-Eustache, le soir sur l'orgue plus récent, plus moderne du 104. Bref, c'était une découverte pour le public, pour les étudiants. C'est une très très belle idée qu'il a eue à ce moment-là. Chaque édition de ce concours donnait lieu à une commande à un compositeur dont certains furent très proches, aussi bien amicalement qu'esthétiquement, comme ce fut le cas de Marcel Landowski ou de Jean-Louis Florenz, qui lui dédia d'ailleurs son dernier opus, L'Enfant Noir. En marge de ce concours, du dernier concours, on put entendre Jacques Tadei, sous la direction de notre confrère, Laurent Petit-Girard, créer le très beau concerto pour orgue de Richard Dubugnon. Quelques années auparavant, on l'avait vu graver une autre œuvre pour orgue et orchestre, celle que lui avait dédiée Marcel Landowski. Et je ne pouvais pas ne pas évoquer l'aspect déterminant de la rencontre avec ce dernier, qui, par son action d'organisation du paysage musical dans les années 70, fut un véritable guide pour l'action de Jacques Tadei. Parallèlement à cette course effrénée, il lui restait à édifier une famille. C'est ce qui s'impose à lui lorsqu'il rencontre, en 1995, celle qui deviendra quelques mois plus tard son épouse, Anne-Louise de Breuil, avec laquelle il aura deux filles, Colombe et Olympia. Il entrait ainsi dans une famille d'hommes de lettres, scientifiques et savants, illustres académiciens, et cela allait orienter assurément sa vie d'une manière nouvelle. Sa famille fut le témoin du désir d'excellence qui le caractérisait, mêlé d'une profonde sensibilité, d'une grande fragilité même, que masquait l'aspect volontiers provocant qu'il arborait parfois en public. Je l'entends encore, alors qu'il dirigeait la musique à Radio France, se glorifier d'avoir réussi à imposer Carmina Burana de Karl Hoff lors de la clôture de la fête de l'humanité, la fête de l'Huma, dans le parc de la Courneuve. C'est vrai qu'il fallait oser. Ben oui, il l'a fait. Qui ne se souvient pas non plus du jour où, à la même époque, Radio France, paralysée par une grève des techniciens, il descendit lui-même sur scène pour installer les chaises et les pupitres, déplacer les instruments, ce qui, bien sûr, n'arrangea pas du tout la situation, comme on peut s'en douter. Les organistes se souviennent aussi de ce fameux conflit qui l'opposa un petit peu au monologue parisien lorsqu'il pensait nécessaire d'améliorer l'esthétique de son bel instrument de Sainte-Clotilde en rajoutant certains jeux. Là aussi, il y a eu une volée de bois vert. Rien ne devait résister à son ambition quand celle-ci semblait servir la musique. Le même être pouvait faire preuve d'une véritable humilité, comme ce jour où, invitant Marie-Claire Alain à venir enseigner au Conservatoire national de Rueil-Malmaison, il n'hésita pas à lui demander de devenir son élève alors qu'il était déjà directeur de l'établissement. Est-ce qu'il sentit, avec l'arrêt de ce festival d'art sacré auquel il tenait beaucoup, du concours international d'orgue qui avait pris son essor, qu'on était entré dans une ère nouvelle où toute recherche d'excellence et de dépassement de soi devenait symbole d'élitisme, et que ce qu'il avait essayé de construire avec tant d'énergie ne résistait pas devant les triomphes de l'hyperfestif, comme aurait dit Philippe Muret. Est-ce que son âme de bâtisseur, se heurter trop souvent à l'abandon d'une réelle ambition artistique de la part des autorités publiques au profit d'une certaine démagogie culturelle en matière de diffusion et d'un pédagogisme envahissant en matière de transmission. Est-ce qu'il se sentait peut-être n'ayant plus la force d'être celui qui tirait d'une certaine manière ces personnages dans ce théâtre de marionnettes et qui d'une certaine manière y voyait s'échapper ces rêves auxquels il croyait tant? Toujours est-il que sa famille fut aussi le témoin d'une lente désillusion qui pointait, malgré la joie que lui procura l'acquisition et la rénovation dans laquelle il s'investit avec passion de la maison familiale de Châteauneuf-de-Grasse, à côté de laquelle il repose désormais. Heureusement, sa nomination à la tête du musée Marmottan le 21 novembre 2007 lui permit de mettre une dernière fois à l'œuvre ce tempérament d'édificateur. Il redonna vie au musée, alla chercher des nymphéas qui croupissaient dans des réserves, en fit une réelle politique d'exposition. Dans son désir de développer les ressources de l'établissement, il créa une boutique et fit une véritable politique de recherche de mécénat. Cette institution reprit ainsi la place qu'elle méritait dans la capitale. Et maintenant, ce travail est magnifiquement poursuivi par notre confrère Patrick de Carolis. Et fidèle à la vocation d'entremêler les arts qui animent cette Académie des Beaux-Arts, il fit venir la musique au sein du musée. De même que ces murs où nous nous trouvons aujourd'hui résonnent encore de certaines de ses improvisations. Car pour lui, la vie, c'était surtout cette pratique de l'improvisation. Il est vrai que cet art peut apparaître comme un art de l'illusion, du factice, de l'émotion brute. Marie-Claire Alain disait les jeux du cirque un peu. Mais c'est pourtant un art de vérité où le don de soi est si souvent et si total qu'il ne laisse pas de place au mensonge. Elle est indissociable de l'art d'écrire et il serait vain de les opposer. Celui qui se lance dans une pièce improvisée aura pour but, dès le premier motif énoncé, de conduire, d'organiser son discours, aussi bien par sa science que par son émotion, dans un équilibre entre langage hérité et ses propres expérimentations. Ainsi, l'improvisation essaiera de laisser à l'auditeur l'impression d'une pièce structurée comme une pièce écrite, alors que le compositeur essaiera que son œuvre garde l'aspect évident de jaillissement d'une improvisation. Malgré sa méfiance envers l'improvisation, Friedrich Nietzsche nous rappelle que l'artiste sait que son œuvre n'aura son plein effet que si elle incite à la croyance d'une improvisation, à une miraculeuse soudaineté de production, afin de disposer l'âme du spectateur ou de l'auditeur de telle sorte qu'il croit au jaillissement soudain du parfait. Ce jaillissement de l'idée, ce mystère d'un parfait qui ne serait pas devenu, comme il disait, ce besoin vital de s'accaparer émotionnellement l'attention d'un public par cette décharge d'énergie en direct, suffisent à expliquer que tant de compositeurs n'aient jamais renoncé à la pratique de l'improvisation, qu'ils se nomment Bach, Beethoven, Saint-Saëns ou bien d'autres, à l'exception peut-être d'un Olivier Messiaen, qui vit d'ailleurs par moments un risque de dévitaliser sa force créative, sa force créatrice. Ce qui fait que quelquefois, quand on allait écouter à la Trinité, on voulait écouter du Messiaen. Et quelquefois c'était le cas, mais quelquefois c'était aussi un merveilleux faux Noël de Dakin et des gens repartaient un peu bredouilles. Un des bienfaits de l'improvisation peut être de nous rappeler à une certaine méfiance envers l'écrit, quand celui-ci amène le compositeur à perdre tout rapport avec la perceptibilité de ce qu'il écrit par celui qui reçoit sa musique. On en a vu l'exemple à différentes époques, que ce soit à la Renaissance ou plus proche de nous. Un écrit qui s'auto-regarde, déconnecté de toute réalité sensible. Pour autant, tous ces compositeurs précédemment cités, même géniaux improvisateurs, n'ont jamais renoncé à ce besoin vital de construire une œuvre écrite. Le même Nietzsche nous disait que le grand art est de mettre en forme son chaos intérieur et trouver les moyens les plus efficaces pour le restituer, le rendre audible. La recherche de ce grand art nous demande d'aller chercher au fond de soi, par un certain recul, ces moyens qui permettent que le résultat sonore corresponde à ce qui a été entendu intérieurement. Et puis il y a ce moment d'euphorie, de fébrilité presque enfantine, qui nous anime, nous les compositeurs, lorsqu'on vient de trouver une mélodie par hasard, un enchaînement peut-être aussi par hasard, qui nous semble le plus inspiré qu'on ait jamais eu sous l'emportement. un instant d'irréalité où l'autocensure se relâche, instant que l'on va essayer de reproduire, de ressusciter, et qui nous pousse à nous projeter d'œuvre en œuvre. Vous parliez tout à l'heure, cher Laurent, dans ce discours, avec beaucoup d'humour et à la fois beaucoup de profondeur, dont je vous remercie vraiment, de l'apparente simplicité qui semblait me lier à l'univers de la création et d'une certaine conscience de l'artisanat qui l'accompagne. N'est-ce pas cet artisanat qu'on essaie de transmettre à nos étudiants qui permet la mise en forme de ce chaos intérieur, justement, qui permet aussi de rendre plus limpides des modes d'écriture les plus savants, de retrouver l'évidence d'un discours, même si celui-ci a demandé des mois d'élaboration. Jean-Sébastien Bach ne nous montre-t-il pas cela avec éloquence, lui qui savait faire sonner une fugue savamment construite, comme une danse libre, pulsée, improvisée, mais avec ce sentiment du parfait équilibre que seul peut donner une écriture contrôlée par l'oreille et la sensibilité. Mes chers confrères, en me faisant l'honneur de m'accueillir parmi vous, en ce lieu de bouillonnement artistique où s'entremêlent tous les arts, vous me permettez d'essayer de m'inscrire dans cette lignée de créateurs qui ont tenté de trouver un équilibre entre héritage et regard vers l'avenir, entre une imprégnation profonde des langages du passé et une réelle transformation de ce matériau pour qu'il acquiert une vie propre, originale et forte, peut-être plutôt qu'innovante. Ainsi, plutôt que démiurge, même si cela peut être parfois nécessaire dans le geste créateur, l'image de l'artiste ne se définit-elle pas avant tout comme celle d'un passeur ? C'est en tout cas ce que semblent murmurer les murs séculaires de cet édifice.